la galoche.
Vous faites quoi ?
Bah rien, on est là pour se détendre.
La galoche.
Vous vous souvenez de votre premier baiser ?
Il vaut mieux que je rentre, je crois. C'est trop pour une première journée.
Relax ! Reste encore un peu, on fait connaissance, c'est...
Une bonne galoche. La tournée des SMAC en Nouvelle-Aquitaine.
Le festival Art et Politique, 14e édition, qui était au menu donc, de cette fameuse galoche 2022. J'ai donc un énorme plaisir que j'ai à vous retrouver en direct, loin de Limoges, puisque oui, si nous parlons, si nous avons également choisi cette soirée avec ce festival-là, c'est parce que nous souffrons assez de la politique concernant donc, la culture à Limoges, au vu des dernières décisions donc, du conseil municipal. Un festival art et politique placé donc sous une thématique, à savoir la folie des grandeurs, ce qui est une petite dédicace comme ça au maire de Limoges, Émile, si tu m'écoutes, voilà. La folie des grandeurs, donc une thématique qui est plutôt chouette, qui moi me rappelle également donc des films célèbres avec Louis de Funès entre autres. Un festival donc qui nous propose des expositions, des conférences, des rencontres, des discussions, de la danse contemporaine, mais aussi donc des musiques actuelles. Comme je vous le disais donc avec Dombrance et Gwendoline, c'est ce soir à partir de 21h. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas au Confort Moderne. Pour parler de ce festival, je ne suis pas seul, et bien heureusement, puisque Maëlia est avec nous. Bonjour Maëlia.
Bonjour.
Alors, on t'a déjà entendu, c'était lundi matin à 10h30, concernant donc, la diffusion du Tout Confort sur les ondes de la radio Bob FM, puisque tu as participé à cette émission pour présenter ce festival. Comme je le disais, donc 14e édition de ce festival donc, art et politique qui est organisé par donc, Sciences Po. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui êtes-vous d'abord qu'est-ce que tu fais au sein de Sciences Po ?
Alors moi du coup je suis coprésidente du bureau des arts, c'est comme le bureau des étudiants sauf qu'on organise des événements artistiques et pas que au sein du campus. Donc là en l'occurrence le festival c'est pour toute la ville, pour vraiment tous les publics, les plus jeunes comme les plus âgés, pour les étudiants aussi évidemment. Donc là c'est un festival qui est né du coup il y a plusieurs années, avec une édition particulière évidemment l'année dernière à cause du Covid-19, hein, quelques turbulences, mais là on revient avec une vraie programmation en présentiel, aussi diversifiée que possible et surtout accessible, parce que notre objectif c'est vraiment de permettre l'accès à la culture à tous, d'en faire quelque chose de gratuit, donc quasiment tous les événements sont gratuits, hormis le Confort Moderne, pour des raisons de trésorerie, nous sommes une asso étudiante. Et donc, oui, voilà, de sortir de la culture avec un grand C, donc permettre à tout le monde, en fait, des amateurs comme des professionnels, de s'exprimer, permettre à tout le monde également d'y assister, et voilà, permettre un accès à des arts très variés.
Alors, je vais peut-être aller dans les clichés, mais quand on parle de sciences politiques, effectivement, on ne s'attend peut-être pas à avoir des événements culturels. À quoi destine, en tous les cas, cette formation ?
Alors en fait, Sciences Po, à l'origine évidemment, était destiné à former les futurs politiciens, je pense. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, contrairement au nom de l'école. En fait, c'est plus largement une école de sciences humaines et sociales. Donc en fait, on étudie la société de manière générale. On fait de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la philo, du droit. Également, en fait, on a des séminaires, enfin voilà, très artistiques pour ma part. Donc en fait, c'est très varié et on a des profils extrêmement différents au sein d'une école. Et on est loin du cliché où tout le monde veut faire de la politique avec un grand P entre guillemets. Donc voilà, on fait plein de choses intéressantes et surtout une vie associative très riche. Donc mais pas toujours, avec souvent un lien en fait avec l'engagement dans la société, mais pas éminemment politique, on va dire. C'est en fait tout le sens de ce festival aussi, c'est plus questionner le lien entre l'art et l'engagement plutôt qu'entre que le lien entre l'art et la politique, au sens des hommes politiques, des débats à l'Assemblée. La politique ne se résume pas qu'à ça, en fait, c'est l'idée. C'est juste, dès qu'on s'engage dans la société, quelque part, on fait de la politique. Et c'est aussi ce qu'on cherche à montrer avec ce festival. Il y a plein de manières, en fait, de s'engager, de lutter, de contester. Et voilà.
Alors, toi, par exemple, qui est à Sciences Po, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est juste aussi pour expliquer, moi, ma vision de Sciences Po, comme tu l'as dit, très bien dit, était celle-là avant. Et aujourd'hui, donc, elle est différente. Donc, du coup, toi, ton parcours personnel va t'amener vers quoi ?
Alors, moi, à l'origine, je pense que beaucoup de gens, en arrivant à Sciences Po, soit ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ça, c'est peut-être 90% des gens.
Ce qui est très bien.
Voilà, soit effectivement, ils veulent peut-être faire quelque chose en lien avec la politique, parce que c'est vrai que si on veut faire de l'art ou de la culture, on ne se dit pas, je vais faire forcément Sciences Po.
Non.
Généralement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Maintenant, je suis en deuxième année, donc j'ai pu affiner un peu, et effectivement, je me disais, pourquoi pas travailler dans l'audiovisuel, donc le cinéma, peut-être la musique, éventuellement. Mais voilà, à l'origine, moi, j'étais entrée avec l'idée de faire des relations internationales. Bon voilà, après on se découvre aussi, c'est l'avantage de l'activité associative, c'est que par exemple là au sein du Bureau des Arts, du coup on fait beaucoup d'événementiel, c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait pu expérimenter dans des cours en fait, et avec toutes ces expériences du coup on affine petit à petit. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ça se trouve dans un an je n'aurai pas du tout le même choix de master, mais pour l'instant c'est ce vers quoi on se dirige.
Ok, donc ça veut dire que c'est un cycle sur 4 ans, et qu'après 4 ans, tu peux continuer ou tu peux te orienter vers d'autres formations ?
Alors c'est un cycle en 3 ans, style bachelor puis master. Mmh. Après le bachelor, c'est très culture générale, donc en fait en sortant du bachelor, à moins d'avoir fait beaucoup d'activités associatives, on n'a pas de réelles compétences très précises à utiliser dans un domaine en particulier. C'est vraiment le master qui va être très professionnalisant, donc bon, on s'arrête rarement au bachelor on va dire.
Très bien. Eh bien voilà, donc on a fait un petit point, une petite mise à jour en tous les cas autour donc, de ces fameuses études. En l'occurrence, vu comme tu l'as défini, ça a l'air d'être un programme assez large, assez vaste, peut-être moins scientifique, peut-être plus littéraire. En l'occurrence, quel type de bac sont acceptés pour Sciences Po ?
Alors vraiment tous, en fait il n'y a pas de critères vis-à-vis de ça, c'est surtout en fait en fonction de ce qui intéresse l'élève. Je pense que c'est encore moins déterminant maintenant qu'il y a les spécialités, qu'on ne fonctionne plus par filière. Moi je sais que j'étais en économie et société, donc Sciences Po se justifie d'autant plus, mais voilà, on a aussi des littéraires et des scientifiques, on a beaucoup de scientifiques en fait, et des gens qui se rendent compte que finalement ça ne les intéresse pas tant que ça. Et puis bon, après il y a plein de façons de faire des liens entre la littérature, la science, la société, enfin... Non, franchement, il n'y a pas d'a priori. Je pense qu'avoir un engagement, par exemple, que ce soit à petite échelle, en fait, au sein du lycée, au sein de sa ville ou quoi, en fait, est beaucoup plus important que ce qu'on étudie en cours.
Voilà. Eh bien, écoute, ce sont de belles paroles qui, j'espère, tomberont dans les oreilles de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent. Revenons donc à cet événement culturel que vous organisez depuis donc, 14 ans maintenant, du moins 14e édition, Festival Art et Politique. Comme tu le disais, effectivement, l'art est toujours engagé, du moins de par la création donc des artistes, quel que soit leur domaine d'ailleurs et leur milieu artistique. À partir du moment où l'on s'exprime, on émet donc des idées qui sont parfois difficiles à comprendre, parce que un petit peu trop abstrait, des fois donc des messages qui sont très directs. Je pense notamment à différents exemples très contemporains, avec par exemple la guerre en Ukraine et ces différents artistes contemporains qui... actuellement, donc, par exemple, du côté de Moscou, réalise des performances au milieu de la rue pour sensibiliser donc, la population russe à ce conflit donc, qu'il y a en Ukraine. Il y a des gens comme Banksy, par exemple, qui affichent des messages à travers le monde, que ce soit donc, du côté de la Palestine, mais également, enfin, moi, je ne vais pas citer tous les endroits dans lesquels eh bien, ces œuvres sont exposées. Alors, qu'est-ce que vous entendez à travers donc, cette folie des grandeurs ? Puisque moi, lorsque j'ai entendu cette thématique, pour tout te dire, j'ai directement lié mon cerveau à switcher sur l'art et j'ai pensé à Kunz, qui a cette espèce de folie des grandeurs à faire des œuvres géantes. Alors, qu'est-ce que vous sous-entendez à travers ce terme-là ?
Alors, je pense que l'idée, c'était de permettre des expressions très, très libres. En fait, c'est plus une orientation qu'autre chose. Je pense qu'il y avait cette idée, après 2 ans un peu confinés, où la culture a été... Bon, pas au point mort totalement, mais on s'en approchait. En fait, de peut-être recommencer à rêver. La folie des grandeurs, ça peut être un niveau personnel. Donc, en fait, soi-même s'autoriser à rêver, du coup, à sortir de ce flot incessant d'actualité, à se dire que peut-être on peut envisager des choses meilleures pour soi, mais pour le monde aussi. Donc, en fait, c'est aussi la folie des grandeurs au sens plus social. Cette ambition de changer le monde. Enfin, après, c'est aussi ce qu'on attribue à notre génération avec les grèves pour le climat, etc. Après, mais je pense qu'il y a de l'engagement dans toutes les générations, en fait. Mais c'est simplement voilà, cette référence au militantisme, au fait que c'est pas quelque chose qu'il faut perdre, même si on sortait beaucoup moins de chez nous pendant 2 ans. Mais le militantisme, ça peut prendre plein de formes, pas forcément que dans la rue. Mais oui, cette ambition de faire avancer les choses. Et bon, après, quand je dis ambition, ça peut être juste aussi l'envie de se laisser aller arriver et d'imaginer que les choses pourraient être peut-être un peu plus belles. Donc voilà, explorer tout ce domaine des utopies, du changement et de ce que ça inspire aux artistes, du coup c'est vrai que c'est assez vaste, mais c'est ce qui nous intéressait aussi. Voilà.
Et puis il y a un message assez positif pardon, à travers donc, cette folie des grandeurs comme toi tu viens de l'exprimer. Et puis je pense notamment aussi à un événement qui est passé, c'était une projection débat autour du film Demain, c'est ça ?
C'était le film Animal.
Animal, pardon, excuse-moi.
C'est aussi de Cyril Dion,
oui,
mais il est plus récent.
Voilà, donc Animal, je reprends, qui, certes, on parle donc d'art et de politique, le cinéma donc, fait partie donc, eh bien, de ces nombreux arts, à savoir le 7e, et qui est là, bah, sensibilise autour donc, de l'écologie, de ce militantisme, de cet engagement. Alors j'imagine que pour nous, c'est assez essentiel, et c'est malheureusement notable de voir l'absence, par exemple, qu'il y a eu pendant cette élection présidentielle autour donc, du problème écologique. Peut-être encore plus vous, de par votre génération, est-ce que ça vous paraissait essentiel de parler, par exemple, de cette problématique du dérèglement climatique ?
Alors, je pense totalement. Je pense que dans les votes, notamment pour Mélenchon, il y a eu beaucoup de votes utiles, en fait, pour l'écologie, parce que c'était le seul programme capable d'aller au second tour pour avec un vrai programme écologique. Donc, en fait, je pense qu'il y a une vraie préoccupation écologique qu'effectivement, on ne voit pas forcément dans les sondages, parce que, en fait, Mélenchon n'est pas étiqueté comme un personnage écologique. Mais il y a une réelle préoccupation, en tout cas dans mon entourage. Et ce qu'on a vu, du coup, bah, c'était hier le débat avec Vipulan, militant écologiste et acteur dans le film Animal. Et quelque chose d'extrêmement intéressant qui est la différence entre l'environnementalisme et l'écologie. En fait, je pense qu'on a une image aujourd'hui des écolos qui en fait correspond plus à celle des environnementalistes, c'est-à-dire ceux qui défendent la nature et les animaux, sans se préoccuper quelque part de l'économie et de la société. Bon, c'est une vision un peu biaisée, mais je pense que pour beaucoup, il y a cette image-là quand même, qui est très biaisée, parce qu'en fait, l'écologie, à la base, c'est le lien entre tous les êtres vivants, y compris les humains, et du coup, aussi les humains entre eux. Donc en fait, l'écologie, dans son sens le plus large, englobe des luttes comme le féminisme, le racisme, les luttes sociales, et donc en fait, l'écologie, c'est tout ça. C'est que l'humain soit harmonieux avec lui-même et avec le monde autour. Donc c'est vraiment une distinction extrêmement intéressante qu'on a abordée hier soir, donc du coup, j'en profite pour en parler, parce que moi-même, je ne la faisais pas, cette distinction, et je trouve ça extrêmement utile. Ça aidera peut-être aussi à valoriser les partis écologistes dans la politique, et en fait de montrer qu'ils ne s'intéressent pas qu'aux animaux, mais bien qu'ils ont des opinions sur les problèmes de société. Donc évidemment, c'est très intéressant et très d'actualité.
Bah, c'est aussi une vision plutôt archaïque de voir donc l'écologie dans ce sens-là, dans le sens effectivement où l'écologie, c'est ça, c'est penser donc le monde du vivant d'une façon globale avant tout. Ce n'est pas donc revenir au temps des Mormons comme certains l'ont pu le dire. C'est intégrer donc l'être humain au milieu de tout ceci et aussi donc les différentes interférences que nous pouvons avoir entre êtres humains donc issus donc qui vivons sur cette même planète. C'est l'une des problématiques qui a été abordée donc à travers le cinéma. Vous avez abordé d'autres problématiques à travers d'autres formes d'art, je pense notamment donc à la danse contemporaine, ce genre de spectacle qui est peut-être moins expressif, avec un message peut-être un petit peu moins direct. Là encore, le choix des spectacles, comment vous l'avez fait ?
Alors on l'a fait déjà avec des appels à projets sur Poitiers, pour donner la voix également aux étudiants. On avait mis au conservatoire, à la fac, des étudiants qui du coup... ont plus ou moins d'occasion d'exprimer leur art. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à recruter, entre guillemets, une danseuse contemporaine qui s'appelle Léo. Et du coup, ça nous a donné l'idée de ce projet, parce que le bloc est un espace aussi très ouvert justement à la pluridisciplinarité entre les arts. Et du coup, on a eu une deuxième performance ensuite d'une connaissance du bloc, où c'était en fait faire le lien entre une expo de photos et la danse contemporaine, mais vraiment pour travailler sur... En fait, une expérience un peu multisensorielle, d'avoir, que la photo soit vraiment liée à la danse, et du coup, on trouvait ça très intéressant parce qu'on avait des niveaux de danse différents, des propositions en fait de danse contemporaine très différentes. Et on est conscient aussi que la danse contemporaine est quelque chose de moins accessible. Enfin, on est loin de la pop culture, par exemple. Mais le fait de le décentrer un peu, de ne pas le mettre sur scène, de le mettre plutôt dans un espace d'exposition, c'est ce qu'on trouvait intéressant. C'était un espace, en l'occurrence, gratuit, accessible à tous. Maintenant, on sait que dans la réalité, tout le monde n'y va pas. Donc, c'est quand même des choses qu'on tient à proposer parce que les artistes ont des projets intéressants. Malgré tout, des soirées comme le confort moderne, on tient à les faire aussi parce que c'est des choses qui parlent à un plus grand nombre de gens. Et du coup, ne pas rester que dans la culture avec un grand C, dans un sens très conceptuel. Parce que nous, on aime beaucoup ça. On sait qu'il y a des gens sur Poitiers qui aiment ça, mais que c'est pas que ça n'attire pas tout le monde. Et du coup, on ne peut pas proposer que ça non plus.
Alors après, vous auriez pu, une programmation très facile étudiante, faire une soirée bière et pizza, entre guillemets, dans un lieu de débauche du jeudi soir dans la ville de Poitiers. Oui. Ça aurait pu être une façon d'envisager cet événement aussi.
Oui, oui, tout à fait.
Après, voilà, il y a quand même un choix esthétique et oui, des valeurs derrière donc, pour défendre ces arts et ces artistes donc, indépendants qui eux aussi, d'ailleurs, pour faire le lien par rapport à ce qu'on disait autour de l'écologie, sont aussi victimes donc, de clichés autour donc, de la danse contemporaine, qui n'est pas réservée du tout à une élite intellectuelle, qui est au contraire se bat, et il n'y a pas que la danse contemporaine, hein, je pense aussi au cirque contemporain, je pense aussi au théâtre, à l'opéra, voilà, tous ces arts-là qui ont été pendant des décennies, voire beaucoup plus longtemps, réservés à une certaine élite. Sociale et financière qui aujourd'hui à travers donc ces nombreux artistes, ces nombreuses compagnies se battent au quotidien pour justement eh bien, exprimer les problèmes de notre société et sensibiliser tout le monde. Donc il faudrait que effectivement tout le monde puisse y avoir accès un jour, voir un spectacle, découvrir ça pour simplement s'ouvrir aussi personnellement à ce genre donc, eh bien, de propositions artistiques. Un festival qui nous propose aussi donc, de la musique, donc là aussi comme tu le disais vous avez collaboré avec le Confort Moderne. Alors c'est dommage, je voulais choper Lofi, le programmateur du Conform, pour parler avec lui, parce que ça m'aurait intéressé de voir justement quelle a été sa réflexion autour de la programmation musicale, parce que je sais que vous avez fait appel donc à Lofi pour la prog. Oui. Ouais. Au niveau des propositions, vous avez amené donc cette DJette nommée Bim. Mm-hmm. Quand il vous a proposé Dombrance et Gwendoline, est-ce que ce sont des noms qui vous parlaient, par exemple? Parce que j'ai toujours la problématique, lorsqu'on essaye de créer des événements avec les étudiants, de trouver en fait une logique qui peut intéresser vous, c'est-à-dire les gens de votre âge, ouais, de votre génération, avec les gens de mon âge.
Alors du coup, c'est totalement Lofi qui nous a fait découvrir. Enfin, peut-être qu'il y a une ou deux personnes dans le Bureau des Arts qui connaissaient. Pour ma part, je ne connaissais pas du tout en fait, aucun des deux artistes. Après, c'est vrai que quand on n'est pas... quand on n'écoute pas cette musique-là, en fait, je pense que c'est des artistes qui sont pas forcément des plus accessibles. Enfin, dans le sens où, effectivement, comme c'est pas si connu que ça, nous, on avait du mal à trouver une programmation qui soit adaptée au Confort Moderne, au club du Confort Moderne. Maintenant, quand Lofi nous l'a proposé, en fait, on a vu avec lui, on s'est dit que c'était assez cohérent, que ça rentrait très bien dans ce lien entre art et politique, ou du moins art et engagement. Je crois que Gwendoline n'aime pas trop qu'on dise qu'ils font de l'art politique, oui, mais plus, pour nous, c'est voilà, ils donnent un témoignage de ce qu'ils vivent, du monde autour d'eux, et donc en ça, c'est une forme d'engagement dans le monde, sans parler de politique. Mais du coup, on trouvait ça très intéressant, d'allier les deux, qui voient l'engagement, on va dire, d'une manière très différente. C'est beaucoup plus explicite, on va dire, pour Dombrance. Mais voilà, ça faisait sens. On a aussi fait confiance à Lofi, qui a beaucoup plus d'expérience, du coup, pour savoir ce qui marche, ce qui va bien ensemble, etc. Pour nous, c'était vraiment une première, en fait, d'organiser ça. Et on est très reconnaissants parce qu'il a été très pédagogue et il n'a pas hésité à nous aider. Donc, c'était une super expérience. Et voilà, on sait que ça va être génial.
Mais bien sûr que ça va être génial. Et Dombrance, on a eu l'occasion de le croiser plusieurs fois, de le voir plusieurs fois sur scène. On sait que ça va être très, très bien. Quant à Gwendoline, on les a ratés à Rennes, au Transmusical. C'était donc début décembre, ils jouaient beaucoup trop tôt, malheureusement. Et donc, on aura le plaisir de se rattraper ce soir. Si Lofi avait été là, j'aurais eu l'occasion justement de lui poser des questions autour de son expérience, puisque cela fait quelques décennies tout de même maintenant qu'il est programmateur, et j'aurais voulu savoir si il trouvait de son côté, s'il y avait plus ou moins d'engagement politique, entre guillemets, dans les groupes qu'il recevait ici au Confort Moderne, puisque le Confort Moderne a toujours de toute façon défendu effectivement cette culture indépendante, ce milieu DIY donc, de la musique, avec tous les groupes donc, programmés depuis maintenant plus de 30 ans. Merci beaucoup en tous les cas, Maëlia, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir présenté donc, ce festival Art et Politique, qui est très intéressant, que j'ai découvert, comme quoi 14 éditions sont nécessaires pour encore découvrir des choses. Exactement. Et ce, tant mieux, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui touche l'intimité. Tu es en droit de refuser de répondre, puisque cette émission s'appelle La Galoche, vu que nous faisons la tournée des SMAC en Nouvelle-Aquitaine. La première fois que tu as roulé une pelle, est-ce que tu peux me raconter ce souvenir ou pas?
Alors, je ne te le raconterai pas parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui m'attire, on va dire. Enfin, je...
Non, mais tu vas bouger, hein.
Non. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'était pas un centre d'intérêt, si on peut appeler ça comme ça. Mais du coup, j'ai jamais été dans cette optique-là.
Très bien.
Donc,
Ok. Mais tu sais, à force de poser la question aux artistes et à de nombreuses personnes, il y en a qui assument, il y en a qui n'assument pas, il y en a qui ont des moments grandioses, il y en a qui ont vraiment vécu des cauchemars, et c'est assez drôle en tous les cas de savoir. Et comme je te le disais, comme si ça touche l'intimité des personnes, tu es en droit ou pas de nous raconter effectivement donc ta vie. Merci beaucoup en tous les cas, Maëlia, pour la présentation de ce festival.
Merci à vous.